La chambre de Gérard. Comme vous le voyez, tout communique. Là, notre coin. Du broc. Ah oui, nous avons l'air conditionné partout. Et il faut que je vous dise, tous les plans ont été dessinés à l'usine de mon mari.
Oh, que c'est original! On peut s'asseoir.
Je vous en prie, c'est pour ça. Oh, mon steak!
Bon, alors, 2, 4.
Le goût du monde. Clémence de Navy.
Bonjour, bienvenue dans le goût du monde. La marmite est sur le feu, mais ce feu, où se trouve-t-il? Dans une pièce commune, à l'extérieur, ou bien dans une cuisine? Où se fait-on à manger? L'architecture a-t-elle toujours conçu des espaces où manger pour se retrouver? Et demain, cette pièce existera-t-elle encore? Les liens se noueront-ils encore autour de la table? C'est autant de questions que nous allons poser aujourd'hui et dont nous allons discuter aujourd'hui avec Odile Deck. Bonjour.
Bonjour.
Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous et très heureux aussi que vous ayez aussi promptement accepté notre invitation.
C'est parce que c'est un sujet qui m'intéresse, la façon dont on socialise autour de la table. Et donc je me suis dit que la cuisine était intéressante.
Vous êtes architecte, urbaniste, designer, artiste, bref, vous avez plein de cordes à votre arc. Vous avez créé une école d'architecture, votre studio Odile Deck a une renommée et une stature internationale. Vous parlez bien évidemment de cuisine de temps en temps, mais surtout beaucoup de logements, d'espaces de vie, d'endroits où l'on vit, on évolue, on écoute de la musique aussi. Cuisine et architecture, comment est-ce que ces thèmes trouvent un écho chez vous dans votre travail ?
En fait, comme je ne fais pas beaucoup de logements, je n'ai pas souvent l'occasion d'en parler. Mais pour moi, la cuisine, je suis en train de faire une tour d'habitation à Barcelone, de logements de très grand luxe. Et j'ai absolument insisté et imposé le fait que la cuisine devait être ouverte. Et que je n'aime pas, quand on m'impose de faire des cuisines fermées. Parce que j'ai du mal à concevoir les cuisines fermées qui sont normées, qui sont petites, qui sont étroites et dans lesquelles on n'a pas la possibilité de rencontrer d'autres personnes. Parce que la cuisine est un espace pour moi qui est ouvert sur la vie, donc ouvert sur le séjour, sur les pièces à vivre. Et il n'y a pas de raison que l'on exclue la personne qui fait la cuisine, qu'elle soit homme ou femme, et du reste des personnes qui sont dans la maison. Donc ça participe de ces fameuses pièces qu'aujourd'hui ont dans la journée différentes fonctions. Et sans avoir forcément une fonction prédéfinie et unique.
Autour de la cuisine. Cependant, il a bien fallu qu'il y ait une place au début, puisque à l'origine de la cuisine, il y a le feu.
Tout à fait.
La découverte du feu.
Mais le feu était dehors.
Le feu était dehors.
Il n'était pas dans la hutte au départ. Puis après ça, il y a feu dans la caverne. Puis il est rentré et petit à petit, on a fini par... Mais encore aujourd'hui, il y a plein de personnes dans le monde qui cuisinent à l'intérieur d'un espace qui est commun pour toutes les fonctions encore. Mais on a surtout commencé à mettre les cuisines dans les sous-sols, dans les châteaux, à mettre les cuisines à l'arrière, dans des endroits qu'on voulait pas voir, parce que c'était des fonctions où il y avait du monde, il y avait du bruit, il y avait des odeurs, et ça ne pouvait pas être mélangé avec les autres espaces qui étaient plus officiels, plus ouverts, plus raffinés peut-être. Et puis, quand on a fait des immeubles d'habitation à partir de, le 17e, 18e, on a aussi mis les cuisines à l'arrière des appartements. Et elles étaient même avec un accès séparé, puisque dans les immeubles haussmanniens, par exemple, et même ceux d'avant, on a l'escalier de service qui fait qu'on ne mélange, parce qu'on ne mélangeait pas les personnes.
Non, on ne mélangeait pas les personnes.
Voilà, et donc on ne mélangeait pas non plus. Voilà.
Classe sociale.
Absolument. Et on permettait aux personnes de service d'arriver par l'arrière, et donc par la cuisine ou l'arrière-cuisine, parce qu'on avait aussi parfois une arrière-cuisine. Et donc tout ça, c'était des endroits extérieurs dont on ne voulait pas savoir comment ça fonctionnait quand on était chez les bourgeois à partir de...
C'est ça. On ne descendait pas à l'office, on restait dans sa salle à manger.
Absolument.
Et on décorait éventuellement la salle à manger pour s'assurer que toute sa richesse était visible au salon et à la salle à manger. Je reviens quand même sur cette idée de feu, parce qu'il a bien fallu abriter les gens qui se trouvaient autour du feu. C'est pour ça qu'on a conçu les huttes par lesquelles s'échappait aussi la fumée. Cette idée, elle est fondamentale parce que tout le monde s'est toujours retrouvé autour du feu, y compris d'ailleurs au XIIe, au XIIIe siècle, au Moyen-Âge, où les pièces étaient communes autour de la cheminée.
Tout à fait. Et alors moi, je parlais des châteaux tout à l'heure, mais c'est vrai que même les...
Mais vous allez vite dans les châteaux, là.
Oui,
on
pardon,
dans les bourgeois.
Je tout de suite, voilà. Mais dans les maisons d'habitation, dans les fermes, on vivait dans la pièce où il y avait la cheminée.
Et où il y avait les animaux.
Et les animaux étaient dans une pièce à part et on dormait au-dessus, souvent, pour se réchauffer. Mais la cuisine, effectivement, enfin, elle était dans la cheminée. Et les cheminées étaient gigantesques, parce qu'on pouvait même s'asseoir dedans. Et on avait le chaudron au milieu et on pouvait vivre autour du feu, puisque autrement, il n'y avait pas d'endroit où s'était chauffé.
Et on faisait sécher ses aliments, il y avait toute une utilité.
Voilà, mais au début, il ne faut pas oublier qu'au début, avant le feu, c'était cru. Et là, on monte très très loin. Mais le passage du cru au cuit a été particulier quand même, a changé complètement la capacité de ce qu'on a mangé et la façon dont on pouvait préserver les aliments, bien sûr.
Ça a été assez fondamental. D'ailleurs, la cuisine et l'espace extérieur, en fait, dans beaucoup de pays, on cuisine encore à l'extérieur. Et la cuisine, le réchaud, nous étions à Madagascar il n'y a pas longtemps et on a parlé du pan à terre, qui est vraiment le petit réchaud sur lequel on met la marmite. On est dehors. Je vous propose d'écouter Sayouba Traoré. C'est un peu notre sage ici, dans le du monde. Sayouba, il a une émission qui s'appelle Le Coq Chante. Il est très au courant de la vie au village.
Le centre de la maison, ce n'est pas la case à fétiche, ce n'est pas le centre de la maison, c'est la cuisine. Ben, on a commencé à habiter quand on a maîtrisé le feu, sinon avant on était itinérant. C'est quand on a maîtrisé le feu, quand on a commencé à cuire les aliments, qu'on s'est fixé quelque part. Là, il n'y a plus la précarité du sort. On sait que en restant là, on pourra faire sa nourriture. On n'a plus besoin d'être transhumant pour aller à la rivière. Mmh. On sait comment stocker l'eau, on sait comment rendre la nourriture viable qu'on stocke. Et c'est à partir de là que l'idée d'habiter quelque part est née. Donc la cuisine, c'est le centre de la famille. Il faut respecter la nature, on vit suivant les saisons. Quand vous avez 4 mois de pluie et le reste de l'année, la saison sèche, il faut des capacités de stockage de la nourriture et sur le long terme.
Mais qui est le grenier alors, Sayouba Traoré?
Le grenier, c'est l'homme, parce que là, c'est les céréales et tout. Mais tout ce qui est condiment... Et c'est encore plus subtil que ça. Il faut pouvoir stocker tout ce qui est condiment, tout ce qui est nécessaire, sans brutaliser les plantes que vous stockez. Et ce n'est pas parce que vous allez les manger un jour qu'il faut leur manquer de respect.
Odile Deck, qu'est-ce que vous inspire ces propos de Sayouba Traoré?
J'ai plein d'images qui me passent dans la tête, effectivement, et je vois ces endroits de cuisine autour d'un feu, effectivement, qui sont souvent à l'extérieur, mais qui sont parfois abrités également, parce que ça dépend des climats, tout en étant à l'extérieur, avec les femmes qui se retrouvent, parce que c'est toujours les femmes qui sont là, avec les enfants aussi, donc en même temps, elles s'occupaient des enfants tout en faisant la cuisine, et ça fabriquait la vie de la famille, et l'homme était souvent à l'extérieur, il était parti, c'était les cueilleurs ou les chasseurs. Ça a perduré dans l'histoire.
Et encore aujourd'hui, d'ailleurs.
Absolument. Ben, bien sûr, puisque je me souviendrai, enfin, il y a quand même toutes ces publicités des années 50 et 60 où on voyait la femme moderne, qui était tellement merveilleuse dans sa cuisine, tellement bien habillée, maquillée et coiffée, avec sa choucroute, qui était dans sa cuisine et on lui apportait tous les instruments pour lui libérer la possibilité d'avoir un petit peu de temps et que ce soit pas trop d'efforts. Mais en même temps, tous les appareils ménagers n'étaient présentés que par des femmes.
Sayouba parle également de la conservation des aliments, cet endroit et de cette place. Il y avait des offices, il y avait des endroits où on pouvait conserver. Est-ce que ça a été complètement oublié dans les cuisines d'aujourd'hui? On a l'impression...
C'était passé dans les arrières-cuisines, puisque les arrières-cuisines étaient des endroits où on stockait, et on faisait quelque chose qui était un peu, parfois où on épluchait les légumes et on préparait les aliments avant de les passer dans la cuisine pour les traiter. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est les placards. Les placards, les étagères... Il suffit. Alors, si c'est ouvert dans une cuisine qui est aussi ouverte dans un séjour, généralement, c'est pas toujours visible. Mais ce sont les placards. Et on a commencé. Donc, j'étais pendant le week-end à regarder l'exposition de Charlotte Perriand, qui est absolument sublime, qu'il faut absolument aller voir.
On va en parler.
Et on voit toutes les étagères et tous les modules. On voit très bien comment, à une certaine période du XXe siècle, on a inventé toutes les modularités des rangements pour pouvoir permettre justement d'organiser la cuisine de façon... La cuisine, et pas seulement la cuisine, mais principalement la cuisine.
Bah, je vous propose quand même d'écouter un cuisinier qui parle justement de...
Pas une cuisinière ?
Non, pas une cuisinière. Ça change. On a l'habitude de parler de cuisinière, mais là, c'est un cuisinier qui parle justement de cette cuisine inventée par Charlotte Perriand, l'architecte, pour la Cité Radieuse à Marseille. Alors, nous sommes juste après la Seconde Guerre mondiale. Oui, dites-nous.
Et je voulais dire une chose, c'est que... Alors, pourquoi c'est Charlotte Perriand qui l'a faite, alors qu'en fait, elle était déjà partie, qu'elle avait déjà quitté Le Corbusier, son bureau, et qu'elle était partie vivre au Japon? Et c'est Le Corbusier qui l'a supplié de venir, il lui a demandé de venir parce qu'en fait, il savait que lui, ne savait pas faire.
Il ne saurait pas faire ce genre de choses, ce genre de lieu.
Parce que j'ai aussi découvert, ça je vais le dire quand même, pendant l'exposition que j'ai visitée pour préparer une émission justement sur elle, c'est que j'ai petit à petit été scandalisée par Le Corbusier qui en fait a compris qu'elle lui était utile parce qu'elle avait tout un pan de savoir-faire et de connaissances que lui n'avait pas et qu'il n'avait pas cette qualité et cette capacité à faire.
Notamment dans l'aménagement.
Notamment dans l'aménagement et après ça l'aménagement des cuisines. Mais c'est fou quand même. Et en même temps il a gommé, et dans l'immobilier, et il a gommé son nom petit à petit.
Absolument. C'est pour ça qu'on le fait rejaillir aujourd'hui.
C'est un vrai scandale.
Absolument. On écoute donc Michel Troisgros, cuisinier 3 étoiles à Rouen, et donc qui parle de cette cuisine conçue par Charlotte Perriand.
La place de la cuisine dans l'habitation aujourd'hui, elle est principale, elle est centrale, elle est le cœur même de la vie. Charlotte Perriand a amené la cuisine ouverte. Cette cuisine qui fait totalement partie de la maison et qui n'est pas fermée, qui n'est pas à cacher, mais bien au contraire, à montrer. Tout ce qui se fait dans la cuisine est beau, on est d'accord. Hein. Tous les gestes, toutes les attitudes, tous les ingrédients sont des beaux ingrédients. Elle a ouvert cette pièce, elle en a fait un confort pour celui qui cuisine, mais un spectacle pour celui qui regarde. Et en plus de ça, je passe à celui qui est de l'autre côté, ce qui est prêt, le plat, etc. Et moi, dans la cuisine, j'ai la lumière, du coup, de la fenêtre ou de la baie vitrée qui est là. Je vois ma famille, mes invités, mes amis, etc. Ils participent avec moi, voilà. C'est ça qu'elle a fait. Elle ennoblit la pièce, mais en même temps, elle ennoblit la personne qui occupe la pièce, la cuisinière. Charlotte Perriand, elle avait des contraintes de coût, des contraintes d'espace. Et elle s'est enrichie des contraintes. Ses possibilités étaient réduites par un ensemble de choses qui l'ont amenée à réfléchir à l'essentiel. Et cet essentiel, finalement, c'est là qu'elle s'est exprimée le mieux, je crois. Dans ces petits espaces où tout doit être en relation avec la personne qui l'habite, de façon très pratique. Et je dirais presque cette cuisine-là, elle pourrait se faire sans bouger. C'est comme si là, je savais ce qui se passe exactement derrière moi pour l'amener sur mon plan de travail. Et là, pareil. Et ainsi, elle a conçu dans un espace réduit quelque chose qui donne la possibilité de faire, on pourrait dire, une sorte de magie. Je ne serais pas surpris que Charlotte Perriand ait pu déjà penser à ce que serait l'avenir de nos modes de vie à la maison. Elle l'a amené, initié, qu'elle était précurseur de quelque chose qui aujourd'hui est totalement notre mode de vie.
Michel Troisgros, le cuisinier, vous écoutez Le Goût du Monde. Nous sommes aujourd'hui avec Odile Deck, l'architecte, et nous parlons de la cuisine, cet espace et du lien social qui s'y joue. Vous avez opiné du chef certain nombre de fois, mais pas tout le temps, Odile Deck.
Oui, parce que d'abord, il faut regarder dans l'exposition, c'est que les premières cuisines qu'elle a faites, elles n'étaient pas ouvertes, justement, et elle a créé des passe-plats pour justement donner une communication entre la cuisine et l'espace de séjour ou de salle à manger. Puis après ça, elle a commencé à ouvrir la cuisine. Et c'est vrai qu'elle était, comme elle était toujours dans des espaces très très réduits, puisque c'est très très fonctionnel, très très petit, et que c'est les fameux appartements modernes, elle a effectivement tout pensé à partir du corps. Et en fait, pourquoi elle faisait ça? Parce que ce que dit Michel Troisgros, en fait, il oublie de dire une chose, c'est que en fait, Charlotte Perriand, elle pensait par rapport à l'homme, par rapport à l'humain. Quand je dis l'humain, c'est-à-dire qu'en fait, elle était extrêmement humaine et elle n'avait pas la vision de l'architecture comme une espèce de chose cérébrale, comme une conception théorique.
Seulement intellectuelle, mais quelque chose
de très, très, très proche de l'humain et proche du corps. Et c'est pour ça qu'effectivement, dans ces cuisines, on pouvait se tenir au milieu et après ça, il fallait bouger des plans pour réussir à passer de l'autre côté, etc. Mais c'était très fonctionnel et très pratique à partir d'une position statique. Et moi, j'ai une petite cuisine comme ça en Bretagne où je peux tout attraper avec mes mains sans bouger effectivement autour de moi. Et c'est très pratique, mais maintenant je vais refaire une grande cuisine parce que j'aime bien aussi bouger dans ma cuisine. Mais c'est important de penser que c'était aussi parce qu'elle était humaine, parce qu'elle pensait au corps et que c'est pas seulement... Et en même temps, il dit que c'est magnifier la cuisinière, magnifier la personne qui fait la cuisine, qui était une cuisinière, évidemment. Je suis pas sûre, parce qu'en fait, malgré tout, c'était des passe-plats, c'était des choses qui étaient pas... C'était pas des grandes ouvertures, pas toujours. Et je pense que aujourd'hui, c'est... Je suis moins d'accord avec lui par rapport à ce qu'il disait quand il dit que la cuisine est toujours le centre de la maison. Parce que, d'abord, les gens cuisinent de moins en moins. Les jeunes d'aujourd'hui ne cuisinent plus. Ils se font livrer. Donc, ils ont moins besoin d'éléments pour cuisiner. Là, on s'est tout livré, on s'est livré le repas complet. Donc, à quoi sert la cuisine?
Et c'est la question qu'on se pose, mais qu'on va se poser tout au long de cette émission. Ils disent pendant que ça donnait à voir cette cuisine pour la
ça
première
fois,
on voyait ce qui se passait en cuisine. C'est important, ça a changé aussi la donne, le fait de voir ce qui se
tout
passait
à fait.
En cuisine.
Tout à fait. Ça voulait dire qu'il fallait aussi qu'elle ait une esthétique qui soit compatible avec le reste de la maison. Et c'était pas juste des plats, des choses pratiques et fonctionnelles. Ça devait aussi avoir une esthétique. Mm. Et c'est ça qui est important.
Oui, tout à fait. Et en tant qu'architecte, c'est quelque chose auquel vous avez réfléchi. Alors, je voudrais juste vous faire écouter, vous, mais il y a un petit bout de temps, en 1986.
Oh mon Dieu.
Votre métier d'architecte et la cuisine, justement.
Lorsque j'ai dit que j'allais faire de l'architecture, enfin, que j'ai souhaité faire de l'architecture, j'ai rencontré des architectes, j'ai rencontré un certain nombre de personnes qui m'ont dit, bah, écoutez-vous, c'est très bien, en tant que femme, vous pourrez vous occuper d'architecture intérieure. Dans une cuisine, vous saurez comment on fera les placards, comment on mettra le plan de travail, comment on organisera les meubles. Je crois que la différence que j'ai actuellement, c'est qu'on me demande systématiquement de refaire mes preuves, quel que soit finalement ce que j'ai fait auparavant.
Odile Deck, c'est quand même incroyable qu'on ait...
En fait, c'était pire que ça. Parce qu'en fait, c'était un architecte qui était venu chez mes parents parce que mon père était persuadé que c'était pas un métier pour les femmes, donc il essayait de m'en dissuader. Et cet architecte avait dit à la fin qu'effectivement, c'était bien pratique, c'était bien finalement que des jeunes femmes veuillent venir étudier l'architecture, parce que comme elles avaient plus le sens pratique que les hommes, elles pourraient très très bien venir dans leurs agences, les hommes, celles des hommes, pour venir effectivement étudier les cuisines et les placards. Et c'était monstrueux.
Monstrueux. Vous avez eu un prix en 2013, qui porte un joli nom, première lauréate du prix de la femme architecte.
Oui, c'était en 2013.
Donc on est à nouveau dans une femme architecte, dans un rôle. On est encore dans une cuisine avec ses murs, on est encore dans sa...
C'est le problème des femmes en architecture, parce que quand on regarde dans le monde entier, savez-vous que sur la totalité des agences d'architecture qui existent dans le monde, il n'y en a que 10% qui sont dirigées par des femmes. Donc c'est rien. C'est un métier dans lequel on est toujours confronté uniquement à des hommes. Les clients sont des hommes, les ingénieurs sont des hommes avec qui on travaille, les directeurs d'entreprises de bâtiments sont des hommes, les ouvriers sur les chantiers sont des hommes. Donc on est toujours avec des hommes, et même si dans les écoles aujourd'hui, plus de 60% des étudiants sont des étudiantes, donc il y en a 50% qui disparaissent. Et c'est un vrai souci, c'est un vrai problème, parce que c'est quand même un monde assez machiste, et c'est un monde d'hommes dans lequel on vit, et qui ont du mal à être confrontés à des femmes qui se prétendent être leurs égales. Et c'est ça, c'est toute la difficulté. Mais en même temps... je pense qu'on va y arriver, je pense qu'il faut se battre. On se bat en ce moment dans des grandes réunions au ministère de la Culture, parce que c'est un souci dont on parle, c'est une chose dont on parle, mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que les hommes prétendent aujourd'hui, j'ai souvent cette réflexion-là quand ils apprennent que effectivement je m'occupe de ça, et j'en parle beaucoup, ils prétendent toujours que ça y est, c'est réglé. Mais non, Odile, c'est déjà réglé. Mais non, regarde la quantité d'étudiantes qu'on a autour de nous. Mais non, mais regarde toutes les filles qu'on a dans nos agences. Je dis non, vous n'avez pas réglé, puisque tout le monde, vous êtes toujours à penser qu'elles sont en dessous, qu'elles ne sont pas en première ligne. Alors que dans les écoles, elles sont considérées comme excellentes.
Et on a encore un très beau paradoxe, ou en tout cas un écho en cuisine. En cuisine, les grands chefs sont
pareil.
Majoritairement des hommes.
Bien sûr.
Et les femmes, elles, on considère que ce sont généralement des cuisinières, mais plus à domicile.
Alors que souvent, certains chefs disent qu'ils ont appris chez une femme, ou qu'ils ont appris par leur mère ou par leur grand-mère, ce qui est quand même un comble.
On ne s'en sortira jamais, cette histoire-là. Alors, vous disiez que vous aimez bien cette... Charlotte Perriand a donc créé cette cuisine, mais elle n'était pas la seule à ce moment-là, dans l'histoire de l'architecture. Moi, j'ai travaillé, j'ai regardé, et venue d'Allemagne, est venue une petite cuisine, la cuisine de Francfort, qui n'était pas bien grande également, conçue par Margaret Schütte-Liotzky. En 1927, je vous propose d'écouter le concept de la cuisine de Francfort.
Conçue par l'architecte viennoise Margaret Schütte-Liotzky en 1926, la cuisine dite de Francfort est l'ancêtre de nos cuisines intégrées. C'est une cuisine de poche de 6 mètres carrés et demi. Entre la cuisinière et le placard à casserole, reste tout juste 86 cm pour œuvrer. Sobriété des lignes, simplicité des volumes cubiques, absence de tout ornement, l'espace est lisse. L'élégant ocre jaune des carreaux contribue à une luminosité solaire. À droite, un pan de mur doublé de rangements. Préfabriqués en atelier, les éléments sont ajustés sur place. Fixés au mur de gauche, la planche à repasser se rabat sur le rebord de l'évier en zinc. Les casseroles, dissimulées dans un placard, finissent de sécher grâce à la circulation de l'air entre d'astucieux rayons bois. À droite, sous une fente, un tiroir émaillé pour les détritus, qui s'évacue dans la partie basse d'un placard également accessible depuis le couloir.
Alors, donc cette cuisine de Francfort, que vous évoque-t-elle ?
Mais cette femme, elle est au milieu de sa cuisine, de son espace. Elle ne bouge pas puisqu'elle ne fait que bouger ses bras pour attraper les choses et tourner sur elle-même. Et en plus, elle peut repasser dans sa cuisine, donc elle est définitivement cantonnée dans un espace réduit. Donc elle ne bouge pas, elle ne fait pas sport, elle ne fait pas d'exercice. Donc petit à petit, son corps va se détériorer.
Une cuisine corset. Catherine Clarisse a parlé d'une cuisine corset, qui est architecte également, qui a écrit un livre qui s'appelle « Cuisine, recettes d'architecture ». Il y a même des projets qui ont été faits pour adapter sa cuisine à la taille de votre femme.
Donc, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Je suis ébahie parce que je trouve ça incroyable.
Le goût du monde, Clémence Denavy.
Mankind. Only the people can believe in mankind. Only the people get control. Only the people can believe in mankind. Only the people get control. Wind is blowing hard today. Dust everywhere. Kingdom is going astray. The sun is high off. The truth we are the knights. Your troops, white and black horses are coming to wipe away your world. Soldiers of blood, they ride. Darkness, their only pride. No mercy will they show to burn the city. Riot in the name of freedom. Riot against oppression. Riot in the name of democracy. Riot against brutality. Riot,
mankind.
Only the people can believe in
mankind.
Only the people get control. Only the people can believe in
mankind.
Only the people get control. Wrath is calling loud today. Riot in the name of democracy. Riot against brutality. Riot,
mankind.
Rebellez-vous au nom de la liberté, Mankind, de la franco-camerounaise Sandrine Caquet sur RFI. Vous écoutez Le Goût du Monde avec Odile Deck, femme architecte, femme rebelle aussi, je crois, femme en tout cas, dans la cuisine aujourd'hui pour une réflexion sur la cuisine. Et oui, pièce fondamentale, lieu de vie construite autour du feu initialement, devenue de plus en plus aujourd'hui pièce à vivre, pièce couteau suisse. On a vu cette mini micro cuisine dans laquelle la femme a sa planche à repasser, ses ordures, elle n'a même pas besoin d'en sortir. Et tout va bien. C'est cependant pas vers ce vers quoi on tend demain. Cependant, elle s'est ouverte, cette cuisine. C'est important de l'ouvrir.
Oui, elle s'est complètement ouverte. Puisque aujourd'hui, on fait la cuisine dans le séjour. Enfin, c'est la même pièce dans laquelle on met ça. On ouvre tout ça. Alors, parfois, on a mis un bar à l'américaine, comme on disait.
Et puis, ça, on est après la Seconde Guerre mondiale. On arrive en découverte de la cuisine américaine ouverte.
Complètement.
Révolutionnaire.
C'était la révolution. Et moi, je me souviens, pour avoir travaillé au tout début sur avec certaines personnes privées, c'est que pour eux, c'était pas possible parce qu'on allait avoir les odeurs, on allait tout voir et tout. Alors que j'essayais de leur démontrer que, en fait, ils allaient enfin pouvoir, la femme qui faisait la cuisine, puisque c'était pas l'homme, allait pouvoir discuter avec les autres. Et puis en même temps, autour de ce bar américain, les amis pouvaient venir, boire un verre, etc. Et qu'on partageait tous ensemble le fait de préparer le repas. C'est tellement mieux de faire fonctionner comme ça. Mais en même temps, si on regarde, vous voulez vraiment qu'on aille maintenant vers le futur éventuellement ?
Non, pas tout de suite. Vous allez trop vite, Odile. Ne prenez pas le temps. Il faut prendre le temps.
Je vais prendre le temps de faire la cuisine.
Non, justement, parce que l'odeur. Est-ce que justement on a conçu des matériaux qui permettaient justement d'absorber l'odeur, d'évacuer l'odeur ? Ça a toujours été très gênant, ça, quand même.
Non, ce sont les hottes. ce sont les hottes qui sont devenues de plus en plus décoratives et qui d'abord cherchent à disparaître, même si elles sont présentes, et qui maintenant, même dans certaines cuisines, peuvent être intégrées dans le plan de travail. C'est-à-dire qu'enfin, elles disparaissent dedans, vous les sortez au moment de la cuisine, ou elles sont sur les côtés de votre plaque de cuisson, ça absorbe, ça tire l'air pour l'être absorbé dans le plan de travail. Donc vous n'avez même plus la hotte visible, donc vous pouvez très bien cuisiner au milieu de la pièce si vous voulez.
On va avoir des plans de travail aussi dans des matériaux qui permettront de découper directement sur le plan de travail. Il y a toute une...
Beaucoup de pierres permettent de faire ça, tous les granites permettent de faire ça. Il y a maintenant mais il y a aussi des matériaux contemporains, mais c'est compliqué parce qu'après ça, ça se raye, enfin ça s'abîme. Donc il faut faire attention. Enfin, c'est quand même pas si simple de cuisiner sur son plan de travail qui doit être esthétique et beau dans son séjour.
C'est compliqué. Pas facile. Pas facile. C'est pour vous, quels sont les sens, justement, qui vous semblent les plus importants en cuisine et du coup en architecture?
Quels sont les sens? Tous les sens. Alors je vais vous raconter une anecdote parce qu'il y a quelques années, il y a presque 10 ans, plus de 10 ans même, j'avais été appelée par la ville de Valence en Espagne pour participer à la Biennale de Valence. On m'avait demandé de travailler avec Ferran Adrià.
C'était un cuisinier qui travaillait beaucoup
moléculaire,
donc sur la Chine.
Qui installait à Barcelone. Et un artiste, parce qu'il fallait qu'on leur montre comment toute l'évolution de la nourriture et les migrations, et comment finalement les trajectoires du monde faisaient partie de la cuisine aujourd'hui. Et on avait vraiment beaucoup réfléchi. J'ai dans ma tête toujours ce déjeuner que j'avais pris avec lui à Valence, où il a commandé du jambon du Fatanegra formidable, et où il a pris un morceau de jambon, il m'a dit, voilà Odile, regarde comment on doit manger le jambon. D'abord tu le touches avec la main, tu le prends dans la main, et tu sens sa texture. Et puis après ça, tu la portes auprès de ton nez et tu le sens. Et donc, c'est maintenant le deuxième sens, c'est le nez, l'odorat. Puis ensuite, tu as ta tête. Et à ce moment-là, il y a ta tête qui commence à fonctionner. Et donc, ton cerveau fonctionne. Et puis ensuite, tu le mets dans ta bouche. Et là, tu touches à nouveau sa texture avec ta langue et ton palais. Et ensuite, tu l'absorbes. Et donc, c'est le goût. Et il m'a dit, il y a tous ces sens-là qui sont mis en action lorsque l'on mange un tout petit morceau de jambon. Et c'est ça, pour moi, tous les sens sont en action dans la cuisine, c'est obligatoire.
Et comment l'architecture, justement, peut se mettre au service, justement, de tous ces sens en éveil, les aider à se développer, les aider à...
Mais en fait, quand on fait la cuisine, c'est la cuisine elle-même qui va activer les sens, c'est pas l'objet de plan de travail, c'est pas les ustensiles. Eux, ils doivent rester neutres, justement, pour pas transférer d'autres choses. Donc, c'est plutôt une neutralité qu'il faut mettre dans la cuisine, même si on doit être esthétiquement beau, tout en étant neutre.
Un peu de fadeur, en fait.
De neutralité, je dirais, pas de la fadeur, parce que ça peut être fort. Oui. Ça peut être des jolis objets, ça peut être des plans de travail tout noirs ou tout blancs ou tout rouges, enfin je sais pas. Ça dépend de la matière qu'on veut utiliser. Mais c'est pas fade, mais c'est juste, ça doit être neutre.
Ouais. La fadeur, c'est un goût aussi, c'est bon.
Oui, alors là aussi, quand je suis allée pour la première fois en Chine et à Pékin, je me suis retrouvée, on m'a invitée à dîner dans le palais d'été de l'impératrice, enfin feu l'impératrice, et on m'a expliqué qu'elle venait de Mongolie, enfin c'était une mongole, et que le raffinement de la cuisine mongole, c'était la fadeur des ingrédients et la fadeur des goûts. Et on m'a fait comprendre qu'il fallait que j'apprécie tous ces différents ingrédients, mais qui étaient très très fades. Mais que ça avait des qualités différentes, des textures, des odeurs, pas des odeurs, mais des choses fades. Donc c'était le raffinement ultime.
Vous avez beaucoup voyagé?
Oui, j'ai beaucoup voyagé.
Dans les cuisines dans lesquelles vous êtes allé, vous êtes allé dans des cuisines, on va dire, de luxe et dans des cuisines peut-être.
Non, parce que quand j'arrive dans un pays que je ne connais pas d'abord, parce que maintenant, comme je suis invitée énormément, j'essaie de choisir des endroits où je ne suis pas encore allée et je vais pas partout quand même. Et quand on me propose d'aller dans un endroit prendre un repas, je demande toujours d'aller dans un endroit où je vais avoir une cuisine qui va être locale. Parce que, et à ce moment-là, je leur demande dans le menu qu'on m'apporte, quels sont les ingrédients locaux, quelle est la chose que je ne connais pas. Parce que je suis curieuse de connaître des choses différentes que je ne connais pas et de tester et de goûter des choses différentes. Ça m'intéresse énormément. Et puis, ça m'intéresse de rencontrer ces personnes que je vais voir autour d'une table, parce que pour moi, c'est l'endroit où j'aime comprendre comment les gens socialisent. Les gens de cet endroit socialisent autour de la table. Alors parfois, c'est dans des événements un peu particuliers, mais quand même, quand on m'a fait goûter, quand on m'a apporté un plat de scorpions piqués sur des espèces de spaghettis grillés en Chine, et que la personne de l'autre côté de la table en face de moi a pris ses baguettes et a piqué le scorpion pour mettre dans sa bouche et m'a regardé pour me mettre au défi de le manger, je l'ai fait, parce qu'effectivement, bon, ça avait juste un goût de crevette grillée, mais c'était tout, mais quand même il y avait le dard qui était encore là, il avait été vidé, mais quand même il y avait le dard, donc c'était impressionnant, ou la paume de chameau, enfin des choses comme ça. Donc je suis prête à toutes les expériences culinaires, parce que je suis prête à tester les goûts, et j'aime, même quand c'est épicier, c'est pas grave, même si je m'étrangle et que ça me brûle, c'est pas très grave. grave. Ce qui compte, c'est d'avoir compris qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de faire, qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de goûter. Donc, quelles sont leurs saveurs et quelles sont leurs limites culture. Quelque part dans leurs limites aussi dans leur goût. Parce que quelqu'un qui des pays où on mange très très épicé, ils seront peut-être prêts à aller très loin dans des limites pour faire des choses. Alors que des gens qui ont plutôt des choses plutôt fades ou plutôt normales ou standardisées auront peur peut-être de choses un peu plus fortes.
C'est donc, l'acceptation des cultures également.
Oui, mais c'est la découverte des cultures et l'acceptation des cultures totalement. Parce que pour moi, c'est certes aller voir des sites, aller rencontrer les gens et parler avec eux, mais c'est aussi aller manger avec eux et comprendre leur cuisine. C'est très important pour moi.
Et du coup, ça rentre en ligne de compte dans ce que vous concevez ensuite architecturellement.
Ça rentre certainement dans mon cerveau, certainement, et ça ressort. Parce que, comme je vous dis, je peux vous raconter plein d'anecdotes, d'expériences, comme je vous raconte cette histoire de manger des scorpions. Mais c'est parce que j'ai eu des expérimentations parfois étonnantes. Quand on m'a apporté des serpents, quand on m'a apporté tellement de choses, et j'ai tout essayé. Parce que je me dis, je vais pas m'arrêter là, je peux continuer, je peux y aller jusqu'au bout. Et après ça, ce qui m'intéresse aujourd'hui, mais peut-être que vous avez voulu en parler plus tard, c'est la table elle-même. Parce que...
Alors, il y a sur mon petit papier devant moi, la table, le centre.
Alors, je ne sais pas si c'est le centre, la table.
Ben justement.
Parce que la table, pour moi, c'est un endroit autour duquel on s'installe. Alors après, ça, on peut s'installer haut, comme dans nos pays occidentaux, ou bas, comme on va en Corée ou au Japon. Mais très bas, quelquefois. Et vous êtes même encastré dans le sol, comme en Corée, où vous avez les pieds qui sont dans le sol et la table qui est presque au niveau de l'endroit où vous êtes assis. Donc, c'est pas très pratique parce que parfois, ça peut couler sur vous, etc. Enfin, c'est pas très pratique. Mais en même temps, on expérimente tout ça. À genoux ou accroupi, j'aurais du mal parce que mes muscles et mes articulations aujourd'hui sont plus difficiles. Mais je le ferais si jamais on me demandait de le faire. Mais la table, c'est pour ça que je dis la table n'est pas forcément le centre parce que la table, c'est un endroit... Ce que j'aimerais dans une table, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je commence à travailler sur, j'ai travaillé sur des tables en particulier pour la FIAC, et pour Bâle, où les tables ne sont pas forcément ni rectangulaires, ni carrées, ni rondes. Elles ont des formes improbables.
Mais il me semble que Charlotte Perriand a fait quelques jolies tables qui ne sont...
Elle a fait des formes libres, effectivement, mais c'est une forme. Alors que les miennes, c'est un ensemble de formes qui sont comme un espèce d'objet, comme un puzzle, vous savez, comme oui. ces éléments de puzzle, mais encore plus complexes, puisque parfois on peut même aller jusqu'à rentrer à l'intérieur et se retrouver assis au milieu de la table, alors qu'en fait, on est beaucoup plus proche de la personne qui est en face de vous.
Donc la table est presque mouvante, en tout cas...
Elle vous amène à vous asseoir, à choisir l'endroit où vous asseyez, et selon que vous êtes 2, 3 ou 10, vous n'allez pas vous asseoir de la même façon autour de la table. Et c'est ça qui m'intéresse aussi, parce que c'est la nouvelle façon de vivre aujourd'hui. Et quand j'avais fait des bureaux pour un bâtiment à Paris, pour le cargo qui était fait d'incubateurs de start-up, et ben c'était pareil, j'avais proposé des tables de réunion qui n'étaient pas rectangulaires, ni rondes, ni carrées, qui avaient des formes libres, parce qu'à un moment, ben, ils vont être qu'à deux. Et si on est deux autour d'une gigantesque table, c'est pas confortable.
C'est difficile.
Donc c'est bien d'être dans un petit coin. Et la table est à un coin, enfin, à une forme de coin, vous pouvez vous mettre à deux. Et puis, en même temps, vous pouvez être à 10 parce qu'il n'y a pas de problème. Donc, ce qui m'intéresse, c'est comment, aujourd'hui, toutes ces multiplicités de regroupements qui fait que la table doit pouvoir être différente.
Moi, ce qui m'intéressait dans la table, c'est l'idée que j'écoute avec attention ce que vous dites, parce que j'aimerais bien avoir une table comme ça dans laquelle on peut s'asseoir presque au milieu, puis sortir de la table. C'est ce qui s'y joue sur le lien social, en fait. C'est l'endroit autour duquel on va se retrouver, ou près duquel on va se retrouver, qui était le feu avant.
Tout à
Donc
fait.
C'est une sorte de feu d'aujourd'hui.
Et en même temps, la table induit le service de la table. Parce que, et ça c'est important aussi, parce qu'il y a toute une histoire sur comment on sert à table et comment on amène le service à table, ou comment vous apportez les plats sur la table. Traditionnellement, au Moyen-Âge, tous les mets étaient sur la table et vous avez même des trous dans les tables et dans lesquels vous pouviez prendre la morceau pour vous et puis vous mangiez avec votre couteau directement ou avec votre cuillère, parce que la cuillère c'est important, c'est les premiers instruments. Et après, petit à petit, on a commencé à avoir du service ou pas forcément de service, parce qu'en fait, en Europe occidentale, enfin Europe vers chez nous, on n'avait pas le service, c'est les Russes qui nous ont apporté le service. Et qui nous ont apporté le fait qu'on pouvait venir servir à table, alors qu'autrement, vous alliez vous déplacer, vous allez chercher les mets et vous les apportiez à votre table, à votre place. Et donc, vous pouviez changer de place éventuellement. C'est ça que je trouve intéressant aussi. Parce que c'est pas parce que vous êtes parti, vous avez quitté un endroit, vous êtes obligé de revenir au même endroit. Vous pouvez aller discuter avec quelqu'un d'autre. Alors que quand vous êtes coincé sur une table où on vous sert à table, vous n'avez que de choix que de parler à la personne en face de vous si la table n'est pas trop large, ou à vos voisins qui ne sont pas forcément intéressants.
C'est une sorte de liberté.
Tout à fait.
La table doit...
C'est important que la table devienne un espace de liberté aussi, oui. Et après ça, vous apportez les choses sur la table et vous les. Il ne faut pas qu'elles soient trop larges pour qu'on puisse justement converser avec la personne en face, mais en même temps pas trop longues pour qu'on ne puisse pas perdre les gens qui sont à vos extrémités. Et c'est toute une réflexion à mener sur la table.
Et qu'elle ait un aspect aussi ludique, qu'on ne s'ennuie pas devant cette table, qu'elle ne soit pas aussi rigoureuse qu'elle en a l'air. Je pose la question parce qu'on a du mal aujourd'hui, enfin de plus en plus, avec les cuisines ouvertes, avec ces espaces à vie, on va manger sur le canapé, voire devant la télé. On a du mal, en fait, à se retrouver autour d'une table, à se poser pour manger.
Oui, et puis les fameux plateaux télé qui sont arrivés, venus des Amériques encore, à un moment où on avait tout mis, enfin, il y avait même les petits trous dans le plateau télé en plastique, et vous aviez la salade là, le truc machin, la sauce à cet endroit-là, et finalement vous ne bougiez plus, vous êtes encore, on était coincé, on était prisonnier de son canapé, de sa télé. Alors qu'aujourd'hui, d'abord la télé est en train de disparaître.
Mais on est dans les écrans quand même.
On est dans les écrans beaucoup. Et on a l'écran à côté de sa place quand on est assis à table, ce qui est terrible. Et chacun regarde son programme, donc on ne discute plus, on ne parle plus. Donc en fait, il faut bannir tout ça pour permettre aux gens de continuer à converser. Et puis, c'est pour ça qu'il faut réfléchir beaucoup, parce que quand je vois les jeunes aujourd'hui, et moi j'en fréquente beaucoup, parce que dans mon agence j'en ai beaucoup, et dans mon école je n'ai que ça, je me rends compte que, et je sais par les réflexions qui ont été faites par des sociologues il y a longtemps, que quand on regarde comment vivent les étudiants à une période, on sait que dans 15 ou 20 ans plus tard, c'est le mode de vie qu'on aura. Donc si vous regardez comment ils mangent et comment ils s'installent, comment ils viennent manger sur leur table de travail et que je leur refuse, il faut qu'ils aillent manger ailleurs pour justement s'obliger à travailler, à parler avec les autres, que je dis que je refuse qu'il y ait un écran qui soit dédié au moment du repas parce que c'est pas, ils doivent discuter entre eux et qu'il faut socialiser enfin. Et donc aujourd'hui, ils mangent plus, enfin ils ne font plus la cuisine, ils mangent ce qu'ils trouvent ou ils commandent. Donc, ils ne sont plus les maîtres du jeu quand ils font la cuisine.
C'est le cuisinier Thierry Marx, d'ailleurs, qui a dit que très rapidement, on ne préparera plus les repas. Hein, il n'y aura plus ce temps-là. Tout sera livré, tout sera consommé, acheté, sans même savoir ce que c'est.
Oui, parce que vous pouvez aujourd'hui vous faire livrer soit tous les ingrédients d'un repas complet, et vous n'avez plus qu'à finir parce qu'il vous donne la notice comment faire, c'est parce que vous ne savez pas cuisiner, ou bien il vous livre les plats totalement finis. Donc, effectivement, il n'y a plus de cuisine. Donc, c'est dommage. C'est dommage parce que ce temps de préparation fait partie aussi du moment de socialiser dans la famille, si c'est une famille, ou dans un groupe d'amis, si c'est un groupe d'amis.
Et de l'apprentissage également. Vous l'aviez dit au début, en Afrique, on a de nombreuses fois, très souvent dans le goût du monde, des témoignages d'hommes et de femmes qui ont appris la cuisine en regardant leur mère et leur tante cuisiner. Et c'est un moment de partage.
Quand on est enfant, on va mettre les doigts dans le plat de sa mère qui est en train de préparer, même si c'est pas cuit, c'est pas grave, parce qu'on goûte les choses. Et c'est important de pouvoir goûter même les goûts de non cuit et cuit après, parce que c'est différent. Et on vient goûter les sauces, on vient goûter les choses. Enfin, les enfants ont toujours fait ça.
Il y a également des effets sur le plan de la santé, parce que cuisiner, c'est prendre le temps. Oui. S'asseoir autour de la table, ou peu importe la manière dont on mange, en tout cas se poser pour manger, ça a une incidence aussi sur notre santé, sur les diabètes notamment, je crois qu'il y a des études qui ont été faites.
Il y a plein d'études qui sont faites en ce moment, et surtout sur le fait qu'il faut prendre le temps de mâcher et de passer l'aliment dans sa bouche, donc ça veut dire qu'il faut que l'aliment ait du goût, qu'il y ait de la découverte dans l'aliment qu'on est en train de manger, parce que si c'est juste un seul goût pendant 30 secondes, c'est trop long, donc c'est bien qu'il y ait des choses un peu composées, un peu complexes, et les plats qu'on vous livre ne sont pas comme ça.
La cuisine avec cette belle table que vous allez concevoir, alors du coup, est-ce que la cuisine va changer également? Est-ce que cette table sera dans cette pièce à vivre ou sera dans une cuisine séparée?
Non, elle sera dans la pièce à vivre parce que c'est une table qui, à un moment, va devenir la table du repas, mais ça sera aussi la table pour jouer, ça sera aussi la table pour travailler, ça sera aussi la table pour faire tout. Parce qu'aujourd'hui, on n'habite pas, compte tenu des prix de l'immobilier qui grimpe, on ne peut pas vivre dans des grands espaces. Et donc, il faut bien... avoir des possibilités de multiplicité de fonctions dans le même espace.
Le goût du monde. Clémence de Navy.
concerto numéro 23 pour oud et piano, Mozart l'Égyptien. C'est beau, n'est-ce pas ?
Absolument,
ça vous plaît ?
C'est magnifique.
Si vous nous rejoignez, vous écoutez Le Goût du Monde. Nous sommes avec Odile Deck, connue, reconnue internationalement. Le musée d'art contemporain à Rome, c'est elle. Les immeubles de logement près de la Villette également, c'est vous. J'ai vu une interview de vous dans laquelle vous disiez qu'il était important pour vous d'ouvrir justement ces logements, que ce ne soit pas des boîtes, mais qu'il y ait des loggias, qu'il y ait des espaces ouverts vers l'extérieur. Et comment étaient les cuisines ? Comment sont les cuisines de ces immeubles-là, de logements que vous avez faits ?
Mais je n'ai pas fait d'immeubles à la Villette. J'ai fait des petits immeubles dans le 18e qui, effectivement, étaient en cuisine ouverte. Parce que j'avais réussi à obtenir de la société pour qui je travaillais que de pouvoir ouvrir les cuisines, alors qu'au départ, ils voulaient que ce soit fermé. Mais est-ce que je dois avouer que c'était un jour, dans le premier immeuble de logement que j'ai fait dans cet endroit-là, j'ai eu un peu la honte de ma vie, parce que j'avais fait des cuisines que j'avais dessinées avec les plans de travail, etc. Et puis quelqu'un dans l'agence avait dû les modifier un moment pendant le chantier. Et quand j'ai fait la visite avec la maire de l'arrondissement de l'époque, c'était dans les années 80, elle m'a dit, mais madame, ça ne sont pas pratiques vos cuisines. Et j'ai regardé les plans de travail, j'ai fait, oh zut, c'est vrai que ça ne marche pas. Il n'y a pas assez de place. Et donc j'avais eu la honte de ma vie. Vous savez, ça nous arrive à nous, ces architectes, quelquefois de se tromper.
Vous avez dit que vous travaillez avec beaucoup de jeunes internationaux, puisqu'ils viennent d'un peu partout du monde. Justement, quelle place a la cuisine dans les volumes qu'ils conçoivent aujourd'hui ?
Mais comme je vous disais au début, je ne fais pas
beaucoup de
logements. Donc on n'a pas souvent la réflexion sur la cuisine, là. Mais ce matin, je faisais une réunion avant de venir vous voir et je faisais la réflexion qu'il fallait qu'on... Parce qu'à cause de l'exposition que j'ai vue ce week-end de Charlotte Perriand, j'ai découvert qu'en fait, elle faisait des propositions, elle faisait des projets comme ça pour elle-même, pour montrer dans des publications, pour montrer dans des expositions. Je me disais qu'il fallait qu'on reprenne cette idée-là et que nous aussi, on commence à concevoir des projets qu'on fait pour nous et qu'on prenne le temps de le faire.
D'ailleurs, elle a une très belle table. Charlotte Perriand, qu'on peut voir dans l'exposition, qui se sort, qui se rentre, qui est multi-usage, qui est dans le salon, mais pas dans le salon. C'est la table de demain aussi, ça, non ?
Bien sûr, mais parce que les espaces étant petits, on a d'abord une table pour le minimum de personnes qui vivent dans l'appartement. Puis quelquefois, vous avez le droit de réunir des amis ou de la famille. Et donc, il faut étirer la table, il faut l'agrandir.
Le socle, s'il y avait un socle de vos conceptions de la cuisine aujourd'hui. Alors, je sais qu'on a parlé beaucoup de la table. Est-ce que si vous deviez... La cuisine idéale, selon vous, aujourd'hui, ça ne veut rien dire et tout dire.
Pour moi, personnellement, qui aime marcher, qui aime bouger, ça serait un très très long plan de travail pour travailler le long de ce plan de travail. Mais pas obligatoirement de se retourner pour aller de l'autre côté chercher quelque chose, parce que je n'aime pas que l'espace soit coincé, donc il faut que derrière soit libre. Mais c'est plutôt le long d'un mur, un grand plan de travail. Et éventuellement une table derrière, mais c'est une table qui va après ça se transformer en table pour manger autour. Mais c'est pas un espace fermé, ça c'est certainement pour moi. Mais en même temps, il faut que ce soit extrêmement pratique. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des tiroirs, il faut qu'il y ait des placards, il faut qu'il y ait des rangements, que tout soit facile d'accès et qu'on ait des choses un peu au-dessus. Et puis qu'on ait surtout beaucoup de lumière et de préférence de la lumière naturelle.
Les matériaux sont importants. Quels matériaux vous choisiriez ?
Pour la cuisine, comme je disais un peu tout à l'heure, c'est qu'il faut que les matériaux soient neutres. Enfin, la partie sur laquelle vous travaillez doit être neutre, parce qu'il ne faut pas qu'elle transfère ni du goût, ni des odeurs, ni quoi que ce soit. Et après ça, si vous avez une cuisine qui est dans un séjour, il faut que ce soit le plus possible en harmonie avec votre espace de vie. Donc je ne sais pas quel est votre espace de vie, donc je ne saurais pas vous dire quelle cuisine vous aurez.
Et le vôtre, par exemple, si vous pouviez choisir ?
Le mien, le plan de travail est tout noir. Et les placards sont noirs, bien sûr.
Bien sûr, alors ça, nos auditeurs découvriront pourquoi ce bien sûr quand ils auront vu votre photo, parce que je ne vous ai pas présenté physiquement et vous êtes tout de noir vêtu avec des cheveux noirs également, d'où le sourire. Et c'est une tradition dans Le Goût du Monde. On a l'habitude de demander à nos invités d'apporter un ingrédient et un ustensile. Parfois, on nous apporte des choses un peu saugrenues. Un jour, on a pensé à une pelle, par exemple, parce qu'on parlait de
creuser le feu.
De cuisine durable, ça peut être tout à fait de creuser le feu. Alors, qu'est-ce que vous nous avez apporté en propre et en figuré ?
Alors, j'ai hésité entre deux objets, puis finalement, j'ai apporté qu'un seul objet, mais l'autre, c'est important. Donc, et en fait, c'est tout à fait étonnant, parce que quand je suis arrivée et que je vous ai rencontré, vous m'avez dit que vous aviez un cadeau pour moi. Et nous avions la même chose dans les mains, du sel noir.
En forme de pyramide.
Absolument, en forme de paillette ou de pyramide, je ne sais pas, ça dépend du sel. Alors j'ai découvert, moi, le sel noir un jour dans une boutique qui vendait du sel d'Haïti. parce que avec les volcans, il y a du sel noir. Après ça, j'ai découvert qu'il y en avait aussi en Espagne, puisqu'il y en a à Majorque. Enfin, il y a beaucoup d'endroits. Je pense que tous les endroits où il y a des volcans, on trouve du sel noir, parce que c'est un sel qui, en même temps, lorsque vous le prenez dans la main, d'abord, il est très beau. Le grain de sel est très beau, parce qu'il a une forme, il a une forme géométrique, et qui est totalement variée, selon les grains. Par contre, il a un grand inconvénient.
C'est quand je vais le prendre, du coup, le vôtre. Montrez-moi un petit peu le vôtre.
C'est que quand on le prend dans la main, et celui-là, voilà.
Ah, il s'effrite.
Mais il s'effrite et il vous laisse des traces noires, parce que la poudre du volcan ou la poudre de la terre dans laquelle il était, ou du sol dans lequel il était, c'est déposé dessus. C'est un peu du charbon, c'est un peu de la terre, des choses brûlées. Donc, ça vous met du noir sur les mains. Et c'est agréable à manger. Parce que c'est pas trop salé. C'est pas trop fort par rapport au sel blanc. Voilà.
Tout à fait.
Vous me l'avez apporté de sel pyramide noir Faras, je ne sais pas d'où ça vient.
D'Égypte, je crois.
D'Égypte. Mmh. Et moi, le mien vient d'Espagne.
Ouais. Et il est effectivement en forme de pyramide, un petit peu le vôtre également.
Alors ça, c'était l'ingrédient.
Et l'ustensile.
Et l'ustensile aurait été une cuillère.
Grosse, petite ?
Une grosse cuillère, parce que j'ai une fascination pour les cuillères. Parce que la cuillère, pour moi, c'est l'objet de base pour la nourriture et pour le repas, et en même temps pour cuisiner. Et c'est vrai que partout, dans beaucoup de pays où je suis allée, quand j'ai l'occasion de croiser des cuillères, j'achète des cuillères. Donc j'ai plein de cuillères différentes, qui en soient plutôt longues, comme en Corée, avec la petite cuillère au bout, ou très en corne de buffle, à Madagascar, j'en ai acheté, ou en bois. Et j'achète tout le temps, indéfiniment, des cuillères. Et à tel point que l'année dernière, mais je crois que je vais continuer ce projet, j'ai dit à l'agence, aussi à mon bureau, on va dessiner maintenant des cuillères, parce que c'est important de dessiner des cuillères. Et je voudrais faire toute une gamme de cuillères.
Voilà. Qui irait bien avec votre table ?
Pour moi ou pour les autres ? Voilà, parce qu'en fait, j'aimerais bien que... Bon, évidemment, les miennes sont noires, c'est vrai.
Bon, vous dites ça avec un air.
Je me punis moi-même de ma couleur noire. Mais en même temps, je les trouve très belles, parce que l'avantage de la couleur noire, c'est que c'est une couleur, pour moi, qui est aussi neutre que le blanc. Et non, vous ne préoccupez pas des autres choses que de sa forme. Et donc, c'est parce que là, vous n'avez plus vous poser la question de la couleur, vous regardez la forme et le pourquoi, à quoi elle sert. Et donc, effectivement, les cuillères que j'achète sont souvent noires.
Et la cuillère, quand même, c'est aussi le symbole du partage, parce qu'on sert avec la cuillère, avec la louche, la grosse cuillère.
Tout à fait, mais ça a été le premier instrument de cuisiner pour manger. Mmh. On a mangé avec les... Parce que c'est la main. La cuillère, c'est la main. C'est que si vous mettez votre main et vous la creusez un peu, vous pouvez récupérer de l'eau, vous pouvez manger la nourriture dedans et vous pouvez le porter à votre bouche. Mmh. Donc c'est pour ça que c'est le béaba, le premier instrument de cuisine.
L'essentiel. Merci beaucoup, Odile Deck.
Merci à vous.
D'être venue à table avec nous aujourd'hui, d'avoir partagé cette cuisine fondamentale, celle d'avant, celle d'aujourd'hui, celle de demain peut-être. On a hâte de s'asseoir à votre table.
Écoutez, venez, je vous invite.
Cette réflexion autour de la cuisine, pièce fondamentale, vivante, de lien et de transmission. Vous qui étiez à table avec nous, mais derrière votre poste de radio, mais avec nous quand même, dites-nous quelle âme a votre cuisine, comment l'investissez-vous, pourriez-vous vivre sans, pourriez-vous vivre avec, mais dehors. Racontez-nous sur Facebook et WhatsApp, 336 431 516 66. Un message vidéo à partager pendant l'émission, ou alors un petit message audio, ça nous fait plaisir, comme ça on pourrait la partager avec vous. Merci à Cécile Bonici, la réalisatrice du Goût du Monde. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même table, même heure. Très bonne semaine à tous.